étonnant, c'est que du coup, tous les textes que vous citez, vous avez choisi, ils se mettent dans cette situation-là, je vais dire métaphoriquement, c'est-à-dire qu'ils en jouent par l'image. Mais la structure même de la langue, elle ne vient pas jouer de ces rapports-là. Et en fait, je pensais, en vous écoutant, je me disais, après tout, enfin, si j'entends votre thèse, j'aurais immédiatement choisi un texte de la fin du XVIe siècle qui s'appelle Le moyen de parvenir d'un auteur, fin XVIe, début du XVIIe, il faut vérifier là, je ne sais plus bien. Mais en tout cas, c'est avant Port-Royal. Et donc, disons début du XVIIe, de Bérold de Verville, où le texte qui est un pavé, hein, c'est un pied de vigne. Le principe, c'est un banquet. C'est un grand banquet dans la tradition platonicienne, je ne sais plus qui, c'est Platon qui évoquait Platon tout à l'heure. Sauf qu'à ce banquet, il y a Socrate, il y a Montaigne, il y a tout le monde. Il y a les anciens et les contemporains du temps. Ça me semble véritablement, structurellement, je pourrais le dire, un système sous-optimal. Parce que pour le coup, c'est illisible. Enfin, je vous engage à le lire. De toute façon, il se trouve, il a été réédité il n'y a pas très longtemps, là, il y a un peu moins de 10 ans. C'est indigeste comme ouvrage. Parce que justement, c'est une manière de penser le monde qui nous est radicalement autre, parce que nous, on n'a plus ces modalités d'entrer dans le monde-là. Et pour moi, c'est ce qui ferait vraiment écho à une manière non optimale d'envisager le monde. Enfin, voilà. C'est tout.
Oui, c'est vrai que j'ai choisi un angle vraiment sur, sur la diégèse, etc., et non pas sur les méthodes d'écriture en elles-mêmes. Ce qui serait plutôt. Parce qu'il me semblait que ça regroupait peut-être plus les messages d'alerte qu'on voulait envoyer, avec ce qui concernait la sous-optimalité, tout ça. Mais c'est vrai que oui, cet angle-là est très important aussi. Et ça me fait aussi penser à un roman de Moi Watt qui s'appelle Anima, je ne sais pas si vous connaissez. Où en fait, c'est pareil, au lieu d'envisager les choses d'un point de vue humain, donc c'est-à-dire de décrire la nature, les animaux, etc., du point de vue d'un homme. En fait, il décrit l'histoire d'un homme à travers les points de vue de tous les animaux qu'il rencontre. Et je trouvais que ce décentrement est intéressant aussi. Je ne sais pas si on peut vraiment le rentrer dans la case de la sous-optimalité, mais peut-être dans le sens où considérer les choses, essayer de voir les choses sans forcément toutes les comprendre comme pourrait le faire un humain. Ça aussi du bon.
En effet, du coup, je vais quand même pousser ce que je vais dire, ce que je n'ai pas dit. Du coup, si vous m'y poussez, c'est que. Comme avec les graphiques du Club de Rome. Je ne peux pas dire ça, le Club de Rome, c'est horrible. Non, mais le Club de Rome, ça évoque tout de suite autre chose historiquement. Mais bon. Comme les graphiques du Club de Rome et les textes que vous choisissez, dans ce que vous avez décrit à un moment donné, j'avais l'impression qu'on parlait du monde d'aujourd'hui, quand même, hein, sur l'optimisation absolue, par exemple, de la santé mentale, dont on parlait en aparté aujourd'hui en France, mais on pourrait dire de la poste, de tout ce qui fait, ce qui est traditionnellement faisait un truc qui s'appelait le service public, c'est pas de l'anticipation, c'est-à-dire que c'est derrière nous, hein, on est largement au-delà de ça, au-delà de la suroptimalité. Les graphiques du Club de Rome, les textes que vous citez, je veux bien que ce soit des lanceurs d'alerte, mais en tout cas, c'est une alerte qui tombe à vide. Qu'est-ce qui ferait acte? Qu'est-ce qui ferait que ce qui a été écrit ne s'écrit pas? Et c'est pour ça que je revenais sur la structure même de la chose. C'est est-ce que juste à le dire, ça suffit pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui peut faire acte?
Mais après, c'est même à contre, parce que le traité de Rome, etc., a été repris par chaque nouveau président des États-Unis à un rapport de la CIA. Donc tout ça a été repris et ça invite le futur président à faire du malthusianisme parce que la CIA a écrit que dans les années entre 2025 et 2030, il va se passer quelque chose parce que la population va être exponentielle et donc tout ce qui a été dit ce matin. Donc ça incite, c'est une incitation hein, à faire une guerre pour réduire le nombre d'habitants. Donc depuis un an, on voit quand même qu'un président des États-Unis tweet beaucoup. Donc on peut, ça peut être aussi une action comme ça, à contre, parce qu'on cherche des modes alternatifs, nous, de notre côté, mais d'autres personnes peuvent se dire, on peut aller jusqu'au bout d'une logique et diminuer le nombre d'habitants pour conforter notre petit pouvoir bourgeois d'une population donnée. Et moi, ça m'a choqué parce que c'était la première fois que le rapport de la CIA est rendu public et traduit. Donc je l'ai lu l'été dernier et j'étais mais estomaqué de te dire qu'il prenait le malthusianisme. Réduire le nombre de la population pour permettre à une classe moyenne de survivre dans un monde qui est menacé. Donc l'alerte, elle est prise en compte par certaines personnes.
Mais évidemment que tous les gouvernants, les gouvernements, tous ces éléments.
Oui, non, mais que l'alerte soit prise en compte, j'entends bien. C'est qu'est-ce qui ferait que ça fasse acte dans le sens où ça n'ira pas dans cette direction.
Ah oui, ça c'est autre chose.
C'est oui, ça c'est autre chose, mais je voulais dire que l'alerte, elle est là quand même. Il y en a qui en ont conscience.
Ah oui, bien sûr.
Et qu'ils n'envisagent pas des solutions alternatives pour permettre la vie à tout le monde.
D'autres envisagent d'autres solutions alternatives.
Voilà, c'est ça.
Mais pour répondre à ta question, on ne sait pas, on n'a pas la réponse, mais il faut bien commencer par poser le problème. Si on ne pose pas, il n'y aura jamais de réponse à la question. Elle ne pourra même pas être posée.
Ta question, elle est presque... On peut l'élargir à l'art, en fait. Dans sa...
Oui.
Tu vois, c'est pas spécifique à la littérature, en fait.
Non, non, mais c'est la notion de bouteille à la mer ou de
oui, défait. On revient à la thématique d'aujourd'hui, en fait, sur la dimension politique de l'art, en fait. C'est peut-être la question, tu vois.
Oui.
Est-ce que je peux vous permettre de faire trois remarques, questions. Ne pas reproduire et ne pas se reproduire, c'est accepter de disparaître. Créer, c'est prendre le risque de repartir à zéro. Est-ce que la sous-optimalisation n'est pas le dernier avatar du conservatisme?
Alors, peut-être que je peux dire un
oui, oui.
Parce que la suroptimalité, là, tu l'as très bien présenté comme une forme de totalitarisme. Enfin, c'est par là, les compagnies, c'est tout là-dessus. La sous-optimalité est aussi un totalitarisme, si on le pousse jusqu'au bout. Hein. Donc, c'est ces deux extrêmes totalitaires. Donc, après, il faut être plus intelligent que ça. Pour moi, le message principal de la sous-optimalité, c'est respecter la complexité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution simple, les systèmes sont complexes, plein d'interactions, il y a des feedbacks, tout est contre-intuitif, donc il faut respecter la complexité. Et donc c'est quelque chose de compliqué, parce que c'est complexe. Le sujet est complexe et faire passer le message est encore plus compliqué.
En tout cas, je suis très heureux de tout ce qu'on vient de se dire, parce que ça nous invite à questionner un impensé qui est le nôtre, qui est qu'il faut que tout soit toujours mieux ou parfait. Et ça, c'est depuis le jardin d'enfants, enfin à l'école primaire. Et donc, si on a cette histoire de sous-optimalité en tête, ben, on est plus prudent.
Oui, enfin, cela dit, le fait d'être dans le monde de l'art, ça nous induit à ces comportements-là aussi. C'est pas qu'on veuille ne pas être efficace ou pas. Enfin, c'est pas le sujet. Être optimal en art, c'est pas le sujet. Enfin, il me semble. Quoi. Donc pour le coup, la relation d'un travail comme celui-là avec le nôtre, c'est on est en total. C'est comme si c'était notre quotidien, c'est notre philosophie. Voilà, donc je pense que justement, c'est.
Enfin, Damien Hirst, il est quand même optimal.
Bah, c'est ce qui est en train de c'est la dimension économique qui est effectivement le facteur nouveau de l'art. C'est les 15 dernières années avec un marché croissant et surpuissant. C'est nouveau, mais ça ne modifie pas l'art en tant que tel. Ça modifie des comportements de certains artistes. C'est encore autre chose.
Non, je serais peut-être un peu plus pessimiste en disant que ça modifie l'art peut-être à long terme. Ça peut modifier.
Ben, c'est pour ça qu'on est là.
Oui, ben c'est ça.
Ben, alors moi, donc, c'est mon hypothèse.
Donc c'est une bonne question posée même pour l'art aussi.
Ben, ça se pose pour l'art, effectivement, dans cette grande accélération. Ouais. Mais en tous les cas, le point de départ de l'art, il n'est pas là.
Non.
C'est pour ça qu'il fallait ajouter dans les effectivement le côté lanceur d'alerte via la littérature, etc., mais via l'art et la création, c'est une capacité non pas d'avoir cet imaginaire, enfin cette dimension plus politique, mais c'est déjà d'être au monde différemment, a priori. Alors si effectivement on en perd le fil, c'est emmerdant, mais bon, c'est là qu'on peut se retrouver. Là, on peut faire du commun, je veux dire, avec les philosophes, avec ce que dit Pierre, avec ce que vous dites. C'est dans cette attitude-là, déjà, face au monde. Bon, vous étiez justement sur... c'était Stranger Things ou c'était Dark Mirror ?
Black Mirror.
Black Mirror, oui.
Bah alors ça, du coup, c'est pas une présentation de moi, c'est Paola qui l'a...
Vous l'interprétez.
En fait, elle a fallu parler allemand. Elle a passé un semestre à l'ENS, le premier semestre, oui. Enfin, les deux premiers semestres, et là, en fait, la nuit est finie, donc elle a dû repartir en Allemagne. C'est pour ça qu'elle est là, en fait.
Non, mais bon, c'est pas, on va pas. Nous,
non, je présente juste, comme elle s'est pas présentée.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça, si c'était court, ça serait bien. Mm-hmm. Moi, ce que j'avais envie de dire juste avant, c'est que. Moi-même, que moi, ma fille de 20 ans. Black Mirror, c'est super important aujourd'hui. C'est un point de, voilà, de rencontre, d'échange. Alors, je ne sais pas comment elle l'a traité, mais...
En fait, elle le mettait en lien avec les smart cities. Donc, en fait, elle commence un peu par définir ce que c'est les smart cities, tout ça. Et après, elle met ça en lien avec la série en montrant ça permet aussi de souligner certaines logiques de la société actuelle qui peuvent rapidement se transformer en dystopie.
Et ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale, par exemple, toutes ces choses-là.
Oui, ce genre de choses.
Mmh. Oui, est-ce que le texte, on pourra nous le communiquer plutôt ? C'est peut-être ça qu'on peut faire.
Et celui des mondes.
À l'issue de... si vous voulez, on a toujours un temps ultérieur qui est celui aussi de la mise en ligne des éléments enregistrés, mais aussi des éléments textes. Donc il y a la mise en ligne et puis il y a ce qu'on passe directement aux participants. Donc on verra comment ça peut s'organiser. Mais on a toute une rubrique ressources aussi qui permet de mettre les choses sur le site. Donc il y a plein de solutions. Quant à Black Mirror, c'est quand même de fait. Pourquoi je vous tordais cette perche ? C'est que ça va dans. Il me semble que ce que vous avez dit précédemment peut être lié à.
Oui, clairement. C'est-à-dire que les fictions d'anticipation, etc., ne se cantonnent pas uniquement à la littérature. Ça s'élargit aussi beaucoup aux films, aux séries, qui touchent peut-être un plus grand public aussi.
C'est intéressant de ce point de vue-là. Et une plus jeune génération, si je peux me permettre. Oui. Moi, je l'ai poussé à lire Orwell à 15 ans, ou je ne sais quoi, mais c'était pas intuitivement là. Quoi. C'est notre génération. Hein. Quand vous parliez, si ça nous évoquait quelque chose, ça nous a fait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça soit aussi.
C'est des classiques, peut-être, quand même. Hein. Donc, je pense que c'est au programme. De lycée, quand même,
Barjavel,
quand même.
Je suis pas sûr. Si,
je doute.
Barjavel,
je l'avais
mis en collège, il me semble.
Ah oui, imposé par le collège.
Ouais,
mais oui, Barjavel, c'est classique.
Ouais, tu vois, tu t'es pas rendu compte.
Mais même Huxley, hein. Moi, Huxley, je l'ai eu au collège.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment des
phares. Ah oui.
Et l'autre présentation, ça va être.
Elle est très courte.
Vous venez à côté de
toute façon. Ah oui,
Barjavel. Et sachant que voilà, il y a le site maintenant.
Bah, c'est Barjavel, ouais.
Elle est bien son texte et puis.
Non, en plus, c'est un peu c'est devenu les classiques de ce type de littérature.
Alors, donc c'est la présentation de Morgane qui ne peut pas être là non plus. Elle est en philosophie aussi. Et elle propose un croisement entre deux œuvres, donc Hartmut Rosa, qui est sociologue et philosophe, et qui a écrit donc par exemple Accélération, une critique sociale du temps, et un autre livre, Aliénation et accélération vers une théorie critique de la modernité tardive. Et ensuite elle fait un croisement donc avec un ouvrage de Guillaume Leblanc qui parle de la course à pied. Ça s'appelle Courir, médiation physique. Et donc, tout d'abord, elle part de l'ouvrage de Rosa, qui est allemand. qui montre que aujourd'hui, donc, il y a une emprise du temps accéléré et accélérant qui est très grande sur nos vies aujourd'hui, donc une incitation à la productivité, au fait de rentabiliser notre temps quotidien. Et donc Rosa propose de substituer le concept d'accélération, de substituer au concept d'accélération le concept d'aliénation. Donc on serait aliéné par cette nouvelle temporalité qui se caractérise par donc une compression du présent, ce qu'il appelle comme ça, donc Gegenwartsschrumpfung. Et donc cette compression du, cette compression du présent correspond à l'augmentation des expériences et des actions par unité de temps. Donc c'est cet impératif de densité en fait, compressé. Et en fait le paradoxe sur lequel repose nos sociétés est celui-ci. Donc étant donné l'accélération technique qu'elles connaissent, nos sociétés devraient être des sociétés du temps libre, mais bien au contraire, on y trouve une forme de famine temporelle. Je cite. Au sens où elle se caractérise par une augmentation du rythme de vie, en dépit du taux d'accélération technique impressionnant. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se plaindre qu'on manque de temps libre, alors qu'on fait tout le temps plusieurs activités en même temps. Donc, c'est ça le paradoxe de la société actuelle. Ensuite, Rosa parle de cycle d'accélération, fait que le système donc, de cette compression du temps et de l'aliénation du temps. Forme une boucle qui s'auto-alimente et qui s'entretient, toutes les boucles s'entretiennent les unes avec les autres. Yacmont Rosa dresse un parallèle donc, entre cette accélération des rythmes de vie et une forme de version sécularisée des palliatifs utilisés pour se prémunir de la peur et de la finitude. J'avance un petit peu. Mais contre cette tendance très pressante à l'accélération, il existe cependant quelques formes d'inertie et de décélération venant freiner ce temps accéléré de l'optimisation par la compression du présent. On peut penser, je donne des exemples, les limites de vitesse naturelle et anthropologique, donc les processus physiques, astronomiques, neurophysiologiques, etc. Mais aussi les oasis de décélération, par exemple les îles perdues, les groupes exclus socialement, les sectes religieuses vivant en autarcie, ou encore les ralentissements étant les conséquences non voulues de l'accélération. Les embouteillages urbains en sont un exemple criant. La dépression, la récession économique, etc. Ou encore les décélérations intentionnelles permettant de participer ensuite encore plus efficacement aux systèmes sociaux accélératoires. Par exemple, se reposer. On a besoin de se reposer pour être productif, etc. Donc les formes d'inertie structurelle et culturelle impliquées par la solidité du système rendent vain tout espoir de changement culturel et ou politique. Mais aucune de ces formes d'inertie n'est suffisamment puissante pour venir balancer ou concurrencer les forces de l'accélération. C'est-à-dire que le temps optimal de nos sociétés est le temps de l'accélération. Et donc, elle cite Rosa, les forces de l'accélération surpassent celles du ralentissement. Et donc, face à ce constat d'une aliénation par l'accélération, Rosa propose une théorie critique et structurelle, une critique des structures temporelles de notre vie sociale et de leur tendance presque totalitaire à forcer à se fondre dans le rythme accéléré et accélératoire. Cette pressante accélération explique un sentiment diffus de malaise, d'inquiétude, d'insatisfaction des individus contemporains qui sont pris dans, je cite, « un état d'immobilité hyper accéléré ». Plus que les valeurs, ce sont nos agendas qui dirigent notre quotidien. Donc le système optimal de nos sociétés contemporaines reproduit sa structure grâce à l'accélération, à la dynamisation du temps. C'est-à-dire croître permet d'innover et de préserver les structures économiques, sociales et politiques. Une nouvelle citation, nous détruisons notre capacité à nous approprier le monde, à être émus et à développer une résilience. Donc c'est tout l'enjeu en fait de ce qu'on a vu au fil des différentes présentations. Rosa pointe un risque de désynchronisation entre le temps subjectif, plus chaotique, marqué par le différé, l'aléatoire, l'irrégularité, et le temps systémique d'une société accélératoire, donc un risque de désynchronisation qui va en s'agrandissant. Une nouvelle citation. Le problème du temps se ressent plus là où les logiques d'accélération se superposent sans s'harmoniser. Même la nature est affectée par cette désynchronisation. Le fait de l'exploiter sans lui donner le temps de se régénérer explique en grande partie le dérèglement climatique, la déforestation, la disparition de certaines espèces, etc. Donc l'injonction à l'optimisation ne signifie pas pour autant harmonisation. Et peut-être que le temps optimal est celui qui échappe à toute synchronisation et accélération forcée. Et donc la solution proposée par Rosa, en fait, face à la crise écologique, serait une décroissance qui soit une décélération, qui nous fasse passer d'une, je cite, stabilisation dynamique à une stabilisation d'adaptation. En toute sobriété et en toute sous-optimalité, écrivait Morgan. J'avance un petit peu. Donc, la désynchronisation proposée par, pointée par Rosa semble alors tout à la fois être un symptôme pathologique de l'inadéquation avec le système temps de l'optimisation capitaliste et technique contemporain, mais elle peut être aussi, peut-être, une porte de sortie, une expérience des limites de ce rythme optimal. Et c'est là que Morgan propose un croisement avec l'ouvrage de Guillaume Leblanc, donc sur la course. Guillaume Leblanc écrit que la course à pied est une tentative pour se resynchroniser, une antidote à la désynchronisation, en ce qu'elle est la possibilité d'un recentrage sur soi du monde. La course peut d'ailleurs être aussi une fuite, mais elle semble alors être, contrairement à ce que l'on pourrait penser, bien plus qu'un souci de la performance et de la conformité avec l'injonction de l'accélération, une expérience d'un temps et d'un rythme sous-optimal. Le coureur choisit son allure, au plus proche de sa condition physique et de son rythme organique. Il expérimente la nécessité de se jouer à la fois de la synchronisation et de la désynchronisation pour être endurant. Il est libre d'accélérer ou de ralentir. Il fonde un temps qui lui est propre. Même s'il court, il peut expérimenter une forme de lenteur, traversant les paysages devenus des non-lieux du fait de l'accélération des modes de transport à un rythme et une allure de course tout humain. Donc pour Guillaume Leblanc, en course, la course, comprise comme expérience d'un rythme lent et régulier, je cite, avec la course, donc, s'établit un équilibre entre soi et le monde, une trêve intérieure et extérieure, hors de toutes les guerres. Elle est ensuite la recherche d'une relation de dépossession du monde extérieur. Cependant, elle n'est pas le fait d'un ralentissement. Elle est l'engendrement d'un rythme précaire entre soi et le monde. Une recherche d'un équilibre dans la mobilité, écrit Leblanc. Elle est aussi, donc la course est gratuite, fuite, échappée, et c'est pourquoi elle est sans pourquoi. Morgan y voit une forme d'ode à la sous-optimalité. La sous-optimalité qui, si elle éprouve les limites de l'optimisation du temps dans la recherche de performance, donne aussi accès à un être au monde cultivant un rapport d'équilibre précaire au temps, une petite expérience du chaos et de la sous-optimalité.
Voilà. La question de la marche, elle peut, d'après, puisque tu nous transmets quand même les messages de... Est-ce que toi, tu penses que la marche peut être dans cette potentialité?
Ouais. Ah, évidemment. Et la danse, par exemple.
Oui, mais alors du coup, si on enlève même le mouvement ou la notion de mobilité et la méditation.
Ah, j'imagine.
Non, mais c'est pour ça que je dis, bon, non, mais c'était pour arriver à la méditation, ouais, que je te posais la, d'accord, question. C'est-à-dire qu'à un moment... Désolée.
Quelle belle progression.
Oh, bah, de toute façon, oui, c'est un peu directif, mais j'avoue, mais c'est vrai que c'est l'absence de mouvement en apparence. Et à un moment, c'est stop, quoi. C'est, voilà, c'est... Et donc ça, c'est de la culture qui n'est pas occidentale, mais qui se répand en Occident. Pardon,
excuse-moi. Non, c'est moi qui... C'est une vision optimiste de la course à pied. Il s'avère que depuis mon bureau, qui est en proximité du parc de la Tête d'Or, j'ai une vue, notamment le dimanche matin, où je travaille pas mal à mon bureau, sur tous ces gens qui viennent faire de la course à pied au parc. Donc... J'y vois plutôt l'apanage du monde capitaliste et d'un temps ultra compté, avec tous ces gens qui ont des baladeurs, etc., qui ne regardent absolument pas les beautés du monde qui les entoure, et qui est vraiment plutôt
du
staccanovisme.
Mais non, mais c'est du doigt.
Il y a les deux.
Alors cela dit, attendez. Puisqu'on a peu de temps, il nous reste 5 minutes, la dimension cosmopolitique, bon, on va plus la traiter en moment en introduction aussi tout à l'heure, dans peu de temps. Mais c'est vrai que ce qu'on effleure à chaque fois, c'est la notion économique du capitalisme et de son, justement, ce qui pousse ce temps à un moment. Donc je constate juste qu'on ne l'explore pas davantage, tant nous dans le cadre du labo que finalement pas tant que ça chez vous, et que c'est quand même le moteur principal, hein, de ça. Alors donc, me semble-t-il.
Et c'était un chantier, justement.
Voilà. Et je suggère qu'on puisse y travailler. je suggère qu'on puisse y travailler parce que ça peut vraiment être un champ de croisée d'approche. Parce
il y a peut-être un point qui économique, un point d'entrée, c'est les assurances. Je dis ça de façon
alors
très
là,
triviale.
Alors là, je laisse.
Parce que, mais c'est oui. On parle d'anticipation, de résilience et tout ça. Ça, c'est des mots-clés qui résonnent beaucoup dans le monde de l'assurance.
Oui, oui.
Et c'est un point d'entrée économique très important.
Prévenir l'imprévisible.
Le temps long, voilà, le cas, tout ça. C'est quelque chose, c'est des mots-clés qui résonnent.
Je ne sais pas si en tous les cas pour vous ça résonne, mais ça peut être un de nos sujets je dirais, à la fois dans la boue ou peut-être avec vous en ENS.
Il y a des publications depuis pas très longtemps d'historiens de géographes qui travaillent sur le temps de l'attente et qui disent on est dans un monde qui nous a poussé à l'accélération pour pouvoir dire qu'on était lent et dénigrer la lenteur, alors que d'autres avaient fait l'éloge de la lenteur. Et qu'il y a retravail pour essayer de voir tout ce qui se construit dans ces temps d'attente, qui sont des temps de la constitution de soi, qui sont très importants. Laurent Vidal, par exemple, et d'autres.
Pardon ?
Laurent Vidal à La Rochelle en histoire, et puis des géographes.
Par ailleurs, puisque c'était un des outils liés à cette approche, le centre d'art, le magasin à Grenoble, a récemment initié l'Académie de la Marche. Mais au niveau artistique et culturel, je veux dire, hein, on essaie, et en vrai, c'est pas juste un mot. Donc on met en place chacun, dans son poids ou pas d'ailleurs, parce qu'on communique beaucoup plus qu'on pourrait le croire, mais justement, on est là pour échanger toutes nos pistes de. Je parlerai pas de solution, c'est pas le mot qui conviendrait.
D'alternative.
La permaculture, par exemple.
Oui. C'est en fait, tout ce qu'on œuvre dans le cadre du labo aujourd'hui, depuis qu'on est dans ce cosmomorphe, converge tout ce qu'on sait. Donc, nous, on vous remercie beaucoup. Hein,
merci
et bravo. Hein.